Le sujet de la semaine.
On va parler de quoi cette semaine?
Vous avez des idées?
Ultra cringe.
On peut dire que c'est vraiment nul ou pas?
Elle a osé.
Alors, cette semaine, on va vous parler d'une figure controversée, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que mercredi 22 novembre, donc hier, est sorti le biopic de Napoléon par le réalisateur Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Et du coup, à l'occasion de la sortie du film, on s'est posé plein de questions et notamment, on s'est demandé pourquoi un tel engouement, en fait. Pourquoi on se fascine toujours par ces hommes-là, par ces parcours de soi-disant grands hommes qui sont très problématiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le film, on l'a pas encore vu, mais on a lu des critiques, on a fait une recherche, et apparemment ça ne serait pas une glorification d'un grand homme de l'histoire. Le film montrerait Napoléon terrifié, anxieux, colérique, aveuglé par son égo fragile. Alors, peut-être, mais pour moi c'est quand même un énième film, une énième mise en avant d'un personnage déplorable de l'histoire. Et il y a des historiens et historiennes qui même déplorent des inexactitudes historiques qui participent à sa glorification dans le film. Par exemple, rien que la phrase en fait qui est sur l'affiche du film, qui dit « il vient de rien, il est parti de rien et il a tout conquis », ça veut tout dire, et c'est un peu le thème central du film. Et puis c'est faux, parce qu'apparemment il venait quand même d'un milieu relativement privilégié. Donc voilà, on va faire
même
topo.
S'il n'est de rien, que t'étais un salopard au final, on s'en fiche en fait.
Oui, c'est ça.
Enfin, il aurait dû rester rien en fait, c'est ça qu'on voulait. De base, en fait.
C'est vrai. Du coup, on s'est posé plein de questions, et moi je voulais juste revenir sur qui était Napoléon et pourquoi est-ce qu'il a été adulé. J'ai noté dans mes notes
pourquoi
qui était Napoléon,
pourquoi
c'est une merde et pourquoi il a adulé. Bref. Alors, Napoléon, il est né à Ajaccio en Corse en 1769. Il est issu d'une famille noble. Il a été consul, puis empereur, et puis parmi les institutions qui ont émergé dans son règne, il y a notamment le Sénat, le Conseil d'État, le système d'enseignement supérieur, le Code civil, le Code pénal et la Cour des comptes. Alors, il y a un énorme héritage. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est adulé. Mais, par exemple, le Code civil, ça a été beaucoup critiqué, parce que, par exemple, ce Code civil plaçait les femmes en position d'infériorité par rapport aux hommes. Toutes les lois, en fait, qui ont été publiées en 1804, elles stipulent que les femmes sont soumises à l'autorité de leur mari. Il y a un peu plus progressiste. Et puis, notamment, il a rétabli quand même l'esclavage dans les colonies françaises en 1802, après qu'il ait été aboli pendant la Révolution française. C'est lui aussi qui, pendant les révoltes qui ont éclaté dans les colonies caribéennes au 19e siècle, c'est lui qui a déclenché une répression vraiment sanglante, qui a coûté la vie à 100 000 personnes, dont 70% étaient des personnes noires. Et puis, il a aussi interdit le mariage entre noirs et blancs. Il a interdit l'entrée de, je cite, « tout noir, mulâtre ou personne de couleur sur le continent français ». Et puis, il est aussi à l'origine de mesures discriminatoires qui mettent fin à l'émancipation des Juifs. Bon, j'en passe parce qu'il y a un sacré
palmarès. Il y a
beaucoup, palmarès.
Franchement, il a une liste, un palmarès de saloperie, quoi.
Voilà, donc c'était pas vraiment un héros, pas du tout même. C'était vraiment un meurtrier de masse, en fait. Et pourtant, ce tyran est vénéré comme une figure emblématique, notamment en France. Ça serait d'ailleurs la figure historique la plus représentée au cinéma. D'après le magazine La Croix, il a été représenté plus de 700 fois au cinéma. Et comme je disais, il a adulé, surtout en France. Je sais pas si tu te rappelles, mais le président français Emmanuel Macron a commémoré les 200 ans de la mort de Napoléon en 2021.
Oui. Je me souviens, ça a fait un scandale un peu.
Et en fait, il a qualifié les décisions horribles de Napoléon d'erreur. C'est un petit euphémisme. Ouais. Et il a également salué le génie militaire de Napoléon. Donc évidemment, comme tu le disais, c'était très controversé. Commémorer, ça peut être bien, mais célébrer, ça veut dire qu'on glorifie quand même un personnage dont je viens d'énumérer les exploits qui ne sont pas très glorieux. Si on peut choisir de commémorer quelqu'un, malgré tous les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qu'il a pu commettre. Enfin, alors que même ces actes en eux-mêmes sont des crimes contre l'humanité. Enfin, c'est un peu le serpent qui se meurt la queue.
C'est ça, parce que moi, je me dis, est-ce que d'ici 50 ans, on va commémorer Hitler en disant, OK, c'est un salopard, mais il a quand même fait avancer l'industrie automobile. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, en fait, si maintenant ce qu'il a fait de mal est plus choquant que ce qu'il a fait de bien, faudrait pas en parler. Je pense qu'on voudrait juste dire, oui, on lui doit le code civil, point. Tu vois?
Oui, de là faire une commémoration, c'est autre chose, je trouve aussi. Et donc, on s'est demandé bah, d'où vient cette espèce d'adoration pour ce personnage. J'ai un petit peu fouillé, il y a énormément de raisons. J'ai vu qu'il y avait à l'époque une énorme imagerie qui a joué un rôle, en fait, dans les journaux, les brochures, les pièces de théâtre, les peintures, qui d'ailleurs étaient souvent commandées par lui-même, qui sont parues.
Moi, j'ai un truc à dire. Je sais qu'il était petit, donc est-ce que tu penses qu'un peu comme Sarkozy, qui se fait plus grand dans les photos quand il est pris en photo avec sa femme, est-ce que tu penses qu'il se dessinait plus grand?
Oui, ben, non seulement il se dessinait plus grand, mais en plus, les peintures, du coup, qui ont été commandées un peu fin 1799, début 1800, en fait, le représentaient en héros, vraiment en sauveur, limite, à l'image du Christ, quoi. C'était des images, par exemple, qui dépeignaient l'armée française décimée par la peste, et puis t'avais Napoléon qui arrivait un peu comme un sauveur, baigné de lumière, parfois avec, tu sais, le doigt un peu tendu vers le peuple, vraiment à l'image du Christ, quoi. Donc il y avait vraiment toute une imagerie autour de ça qui a sûrement participé à son adulation. Et je pense que sa glorification, elle est due à plein de facteurs différents, mais aussi bah, le nationalisme, la mémoire historique qui est clairement sélective. En fait, les gens choisissent de se concentrer, comme tu disais tout à l'heure, sur certains aspects bah, de ce personnage-là et minimisent et ignorent aussi d'autres aspects beaucoup plus négatifs du personnage, quoi. Enfin, ça sert aussi, je pense, cette glorification à des objectifs politiques, forcément, parce que, bah, voilà, comme je disais, c'est vraiment un symbole du nationalisme français. Donc voilà, et moi, je me suis demandé, du coup, pourquoi est-ce qu'on adule tous ces grands hommes de l'histoire? Pourquoi cette fascination pour tous ces hommes horribles? Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un énorme engouement, en fait, pour tout ce qui est historique et pour toutes les séries historiques bourrées d'inexactitudes. Je ne sais pas si, par exemple, tu connais les Tudors, ouais. The Crown.
Et surtout là, je vois que tu parles de Vikings. Parce que moi, c'est une série que j'avoue que j'ai adorée. Mais en fait, on ne se rend pas compte que les Vikings étaient déjà des voleurs de terre et souvent des violeurs. Ils violaient les gens qu'ils trouvaient là-bas. Ils les tuaient. Et j'ai l'impression que, tu vois, la série nous fait voir un peu les Vikings comme genre des explorateurs gentils qui ont beaucoup de valeurs familiales. D'ailleurs, quand tu parlais du nationalisme, du coup, les Vikings sont aussi un grand symbole de tous les mouvements nationalistes et du coup nazis.
Mais qu'est-ce que t'aimes, par exemple, toi, dans la série Vikings?
Mais je trouve que le mec, il est trop beau, en fait. Il est beau, il est sexy, tu vois. Il a ce côté un peu blond sale qui vient d'Australie, mais en fait, c'est un Norvégien, tu vois. Tout ça, quoi. Juste ça. Juste
okay, parce que
s'il avait été moche, j'aurais pas regardé. Moi, je suis le genre de fille qui, quand le mec est beau, ben bon, ça passe, tu vois.
Ok, voilà. D'accord. J'avoue. Ils t'ont eu comme ça, alors. Et il y a aussi plein de biopics, plein de films sur plein de figures historiques controversées qui sont parues. Par exemple, sur César, là, on l'a vu, Napoléon, De Gaulle, Roosevelt, etc. J'en passe. Et en fait, derrière toute cette adulation qu'on retrouve, du coup, dans la pop culture, il y a une vision idéalisée de la masculinité, de la virilité et du pouvoir avec tous les clichés qui s'y rattachent. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les jeux vidéo, dans plein de choses de la culture. Et là, tu parlais des Vikings, mais il y a aussi l'image des gladiateurs avec le film, justement, de Ridley Scott aussi, qui est sorti en 2000, Gladiator, et qui a participé à populariser la figure du gladiateur avec le personnage de Maximus, qui vraiment reprend tout l'archétype du héros masculin, viril.
C'est ça, c'est vraiment ma femme, mon épée, ma terre. C'est vraiment ça, quoi.
slogan du prochain film. D'ailleurs, Ridley Scott va commencer le tournage de Gladiator 2 en 2024. Donc, on voit que vraiment, il y a un engouement et ça n'en finit pas, quoi. Et il y a plein d'autres figures comme ça, hors Napoléon. Il y a par exemple Christophe Colomb, qui, il n'y a pas longtemps, il y avait un débat autour de sa canonisation. Il y avait des gens qui voulaient le canoniser. Christophe Colomb, entre gros guillemets, explorateur, ou plutôt colon, il porte bien son nom, qui n'a rien découvert du tout d'ailleurs. Il y a même un jour férié aux États-Unis qui lui est dédié. Donc on voit vraiment que toutes ces figures historiques masculines, blanches, avec vraiment des passés quand on fouille, ou même quand on fouille pas d'ailleurs, qui sont pas du tout glorieux, sont encore aujourd'hui adulées. Et on dit souvent en fait qu'il faut se souvenir du passé pour pas le répéter, et je trouve ça bien. Mais quand le passé est déformé pour correspondre à des idéologies oppressives ou que certaines figures problématiques sont glorifiées, bah pour moi, là, ça pose problème. Enfin,
ça,
j'imagine
en plus,
que t'es
d'accord. Comme tu l'as dit, tu vois, à l'époque, Martin Luther King était traité de terroriste, tu vois. Donc, c'est un truc que Booba dit dans une chanson. Booba, c'est pas un exemple à suivre, mais bon, il dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est vraiment ça, en fait. Donc, je pense que l'histoire change tant qu'elle nous arrange, tu vois. Donc, voilà. C'est faux. Même quand on dit se souvenir de l'histoire, de la vraie histoire, vérifier ses sources, vérifier qui parle. Et souvent, je dis un truc à mes sœurs, je dis à qui profite le crime. Donc voilà, savoir qui parle, d'où ça vient.
Ouais, grave. Et puis au-delà de prôner le fait de juste devoir se rappeler, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits pour justement manipuler un peu cette mémoire collective, comme tu le disais tout à l'heure, et la fabriquer, la déformer en faveur de ce que les sociétés veulent montrer d'elles-mêmes. Par exemple, je sais pas pour toi, mais enfin, j'imagine que c'est la même chose. Mais dans mes cours d'histoire, les parties sombres de la France, elles étaient survolées, ouais, ou complètement twistées. Puis on passe 1000 ans
mais
sur les.
C'est vraiment quand j'ai grandi que j'ai su que la France a eu vraiment un rôle actif dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'avant, c'était genre en mode, nous, les Belges, on était vraiment neutres, donc on faisait rien. Mais ils étaient vraiment très actifs, tu vois. Et on a l'impression qu'il y avait vraiment les méchants et les gentils. Et que les héros, c'était Churchill, tout ça. Et j'ai appris les trucs sur Churchill, c'était un salopard aussi, tu vois. Donc, ouais. Et toi, on montrait dans les Japonais comme les gens horribles. Mais en fait, je pense qu'il y avait des monstres des deux côtés. Et que, ouais, et que l'histoire n'est pas toute blanche ni toute noire. C'est vraiment des zones de gris et de pluvieux et de merde, en fait. Donc, voilà.
C'est poétique ce que tu dis, Kumbis. Ouais. Et en fait, je me dis, en glorifiant tous ces hommes blancs, l'idée que les hommes blancs, justement, sont les gardiens de l'autorité intellectuelle, c'est un peu ça qui ressort. Et il y a une glorification excessive de tous ces personnages historiques qui fait qu'on néglige leur politique horrible, quoi, comme ce qu'on vient de dire, quoi.
Toi, donc, du coup, quand tu parles de personnages horribles, nous, on est belges. Et je me souviens, dans les années 2014, 2015, tout ça, il y avait plein de débats parce que il y avait tout un collectif congolais qui voulait qu'on déboulonne, du coup, la statue de Léopold II. Donc, Léopold II, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un roi belge, et il a fait beaucoup, beaucoup de merde au Congo. Il a même été jugé l'une des colonies et l'inquisiteur les plus violents de l'histoire. Et franchement, il faut le faire pour pouvoir avoir ce titre-là. Et du coup, en fait, en 2015, il voulait faire une petite commémoration autour de la statue. Et les gens ont dit no way, en fait. Pourquoi, en fait? Et donc, pour vous rappeler un peu ce qu'il a fait, je cite le Nouvel Obs, qui dit, en fait, au tournant du 20e siècle, la presse internationale relève tous les crimes qui ont été commis au Congo par l'administration belge du roi Léopold II. C'est entre 1885 et 1908 et il y a eu des massacres immenses. Ils ont coupé des mains des gens qui ne ramenaient pas assez de caoutchouc. Ils ont rasé des villages entiers. Il y a eu des viols, il y a eu des meurtres, il y a eu tout ce qui était le plus horrible dans la colonisation. Et il y a quand même des gens, dont Aymeric Lamotte, qui était en 2015 du coup conseiller municipal à Woluwe-Saint-Pierre. C'est comme un arrondissement de Bruxelles. Et avocat qui a été en fait choqué qu'on puisse dire que le roi bâtisseur qu'est Léopold II était quelqu'un de mauvais, en fait. Et donc il a commencé à réécrire l'histoire concrètement en disant qu'en fait ce n'était pas du tout un génocidaire, qu'il a quand même libéré le peuple congolais de l'esclavage arabe, que les mains coupées n'étaient qu'un mythe, et qui en fait il faut remettre la politique coloniale dans ce contexte, et plein d'autres conneries. Donc voilà, pour te dire encore une fois que l'histoire en fait oublie le mal et glorifie les hommes, surtout quand ils sont blancs et qu'ils ont rapporté de la thune à leur pays, en fait. Et tout ça, je pense. C'est vraiment une histoire de thune à la fin, en fait. Je pense.
Toujours. Always. Et là, tu parles de déboulonnement et, en réponse, en fait, à toute cette glorification et déformation de l'histoire, il y a eu ces déboulonnements de statues. Je voulais faire un petit point là-dessus. Il y a eu pas mal d'appels à déboulonner les statues après et lors des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd en 2020. Aux États-Unis, notamment, et un petit peu partout dans le monde. Et notamment aussi aux Antilles, où, il y a des statues des figures confédérées, de colons, d'esclavagistes qui ont été endommagées ou retirées. Et, il y a plein de gens qui se sont en disant que voilà, ce serait effacer l'histoire que d'enlever ces statues-là, qu'elles étaient là pour nous rappeler l'histoire. Encore toujours la même excuse. Mais les statues, en fait, c'est quand même, enfin, une statue quand même, juste qu'on revienne quand même à l'essentiel, une statue dans l'espace public, c'est clairement une glorification. Et en plus, il n'y a pas souvent de contexte historique autour de ces statues.
Si, mais non, il y avait au moins une pancarte qui disait ce mec est un salopard, mais il est important, donc on laisse là, même pas ça, tu vois. Je sais pas si tu vois dans les Ménans, sur Walt Disney, il y a plein de films, dont par exemple Aladdin. Au début, ils disent ce film est rempli de clichés racistes, tout ça. Et au lieu de supprimer l'œuvre, on aimerait en parler. C'est un petit détail, mais qui fait tout, tu vois. Au lieu de juste dire oui, on était raciste, mais c'était en 1903 et c'est un peu normal, non, tu vois. Vraiment apprendre ses erreurs, dire oui, c'était mal et oui, à l'époque, on aurait dû être révolté, mais on l'a pas fait, mais maintenant, on aimerait bien le faire. Et je pense qu'on voit pourquoi c'est aussi dur de le faire, en fait.
Mais surtout que pour moi, se rappeler de l'histoire, il y a d'autres moyens de se rappeler de l'histoire plutôt que de mettre voilà des statues de ces personnes-là dans l'espace public. On peut par exemple réformer les cours d'histoire pour qu'ils soient un peu plus accurate. Il y a aussi la réparation. Il y a aussi arrêter de donner des noms de racistes aux rues et stations de métro, de censurer, comme on le disait tout à l'heure, certains noms de figures militantes comme Angela Davis. On parlait du lycée tout à l'heure. Enfin, en fait, les statues, ces statues-là, elles glorifient des personnes qui ont perpétué notamment l'esclavage ou plein d'autres trucs. Donc, il y a d'autres choses à faire pour se rappeler de l'histoire. Donc, voilà. Pour moi, en fait, parce que souvent, c'est aussi un autre argument des personnes qui sont contre voilà, le déboulonnage, etc. Une grande figure, c'est pas forcément une bonne personne, certes. Mais en fait, si on entretient toute cette vision, cette glorification et cette vision non critique des personnages historiques, on crée en fait des espèces d'archétypes de héros qui sont complètement détachés de la réalité et aussi complètement détachés de l'éthique et de tout ce qu'on a appris de l'histoire, quoi. Et je pense qu'il y a une différence entre apprécier des exploits ponctuels, des réalisations de tous ces personnages, et puis complètement twister la réalité, remplacer la personne qui a vraiment existé dans nos esprits par une version complètement idolâtrée et whitewashed. Et je pense que ce serait bien aussi de remplacer ces personnes-là qui sont sur des piédestaux par des personnes qui mériteraient davantage d'être connues, des personnes dont on parle pas assez souvent, des femmes par exemple.
Et surtout, tu vois, parce que souvent on dit oui, mais c'est qu'un film, mais le problème, c'est comme tu as dit, c'est que la vérité n'est rétablie nulle part, et surtout pas à l'école ni dans les journaux. Donc en soi, c'est le film qui reste et c'est l'idée et l'imaginaire collectif qui reste du mec. Et donc on se dit, c'est un mec bien en fait, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment ça.
Et tu voulais nous parler d'une trend.
Ouais, c'est ça. Du coup, en parlant de grand homme et de remixage d'histoire, il y a on doit vous parler de la trend TikTok qui s'appelle Roman Empire, donc l'Empire romain. En fait, en septembre, tout le monde ne parlait que de ça. En fait, les hommes, à ce qui paraît, les hommes adultes et surtout les hommes blancs penseraient constamment à l'Empire romain. Donc, en fait, ça a commencé sur Instagram. Donc, c'est une trend TikTok a commencé sur Instagram avec le Reels. Donc, c'est une vidéo courte pour les gens qui ne sont pas Insta-friendly, d'un mec qui s'appelle Gaius Flavius, je pense que c'est un faux nom aussi, je pense. Et en fait, il a écrit un texte qui dit « Ladies, vous ne réalisez pas à quel point les hommes pensent souvent à l'Empire romain. Demandez à votre mari, copain, frère ou père et vous serez surprise de leur réponse. » Donc, en fait, il y a eu un déferlement de femmes qui ont filmé leur mec ou les hommes de leur vie en leur demandant « Combien de fois tu penses à l'Empire romain par jour ?» par mois, et on était choqués. En fait, les hommes pensent beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'Empire romain, et ils disent en fait que c'est une façon, ils disent que parce que c'était une belle époque, il y avait les gladiateurs, et bien sûr, ils enlèvent tout le côté esclavagiste, tout le côté femme soumise, tout ça, et pour eux, c'était vraiment genre une des périodes où l'homme était le plus viril et le plus honoré de l'histoire, et donc on aimerait savoir pourquoi les hommes sont autant fascinés par les périodes sexistes et problématique, et pourquoi l'Empire romain surtout?
Ouais, moi j'avais vu cette trend sur TikTok et j'étais hyper intriguée. Je me dis, comment ça, l'Empire romain? Pourquoi est-ce qu'on penserait quotidiennement à l'Empire romain? J'ai trouvé ça trop bizarre, et en fouillant du coup, j'ai compris pourquoi. Parce que vraiment, effectivement, j'ai regardé les vidéos et il y a apparemment énormément d'hommes qui penseraient à l'Empire romain. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi. Et en fait, c'est une fascination qui date pas d'hier, et ce serait propre notamment à la droite, à l'extrême droite, ou en tout cas aux valeurs qui y sont rattachées. Ouais. Et j'ai lu un article de Vox qui datait de 2019, qui a été écrit par le journaliste Sean Ealing, et en fait, où il explique que les masculinistes et la droite sur Internet font vraiment beaucoup de références en fait à la Grèce et à la Rome antique. Et en fait, c'est toute une fascination pour la culture spartiate, pour les philosophes stoïciens, les penseurs comme Aristote et Platon. Et c'est une croyance que toute cette culture grecque romaine ancienne, ça serait le fondement de la civilisation occidentale et que ces cultures seraient l'apanage des hommes blancs. Alors leur but, c'est pas juste en fait de célébrer les cultures anciennes par pur amour de l'histoire. Enfin, en fouillant un peu, en lisant plein d'articles, je me suis rendu compte que c'était surtout surtout de consolider en fait tout un récit de l'histoire qui, comme tu le disais, glorifie le patriarcat, la suprématie blanche, un petit peu pour mettre des bâtons dans les roues de toute forme de progressisme qu'on peut voir aujourd'hui. Donc en gros, ils sont pas contents parce que voilà, on parle de transphobie, on parle d'égalité entre les genres, etc. Et du coup, il y a cette espèce de retour en fait à des valeurs anciennes, et ça passe notamment par l'Empire romain. Et donc dans cet article-là de Vox, il y a Donna Zuckerberg qui est autrice du livre Not All Dead White Men, Classics and Misogyny in the Digital Age. Je traduis, pas tous les hommes blancs morts, les grands classiques et la misogynie de l'ère digitale. Et donc, elle dit, Donna Zuckerberg, la célébration de la civilisation occidentale est en réalité une façon de célébrer les réalisations culturelles des hommes blancs. Ils considèrent la Grèce et la Rome antique comme le point de départ de cette idée imaginaire de la civilisation occidentale. En gros, l'histoire sert de prétexte pour glorifier la masculinité et la blancheur. Ils se tournent vers le monde antique, en fait, pour trouver la confirmation de leurs idéaux, de leur vision biaisée du monde. Et ils veulent modeler l'avenir des États-Unis. Alors, je parle des États-Unis parce que cette trend, elle est...
Ouais, qu'elle vient de là-bas.
Elle est vraiment forte, en fait, aux États-Unis. En fait, ils veulent un peu modeler l'avenir des États-Unis en se tournant vers ces anciennes cultures pour y trouver des modèles qui renforcent un peu leurs idéaux, leurs attentes. À savoir, du coup, l'idée que les hommes seraient naturellement dominants, plus rationnels que les femmes, qui seraient, elles, émotionnelles. Il y a aussi la figure du mâle alpha. Et il y a plein d'arguments aussi en faveur du racisme, de la colonisation. Enfin, c'est tout cet imaginaire-là, en fait, qui est rattaché à la Rome antique.
Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils oublient qu'en fait, à cette époque-là, il n'y avait que les riches qui vivaient bien. Eux, la plupart des racistes aujourd'hui auraient été des pauvres pesants, tu vois, des gens qui mangeraient du pain rassis et du lait pourri, en fait, tu vois. Ils croient trop qu'ils allaient vivre dans les belles maisons, tout ça. Non, t'aurais été esclave et tu serais mort dans l'arène, en fait, et tout.
Il y a toujours cette déformation de la réalité pour en fait fitter ce qui t'arrange aujourd'hui, quoi. C'est un peu comme tu disais, une fois que c'est des gens morts, tu t'adoucis un petit peu tout, tu modifies un petit peu tout pour que ça corresponde à tes valeurs, tes idéaux, tes attentes, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tellement peur des progressistes qui seraient en train de créer une société décadente et multiculturelle, en fait, qui vouent un espèce de culte à ces cultures occidentales anciennes qui, selon eux, seraient vraiment un modèle supérieur, mais surtout un modèle raciste et patriarcal, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, parlons un peu des femmes pour changer, parce que là, on a parlé beaucoup des hommes. Et du coup, vous savez, ce qui est chouette avec les trends d'Internet, c'est que ça crée des nouvelles trends. Et du coup, après les 2 milliards de vues qu'a rassemblé le hashtag Roman Empire, les femmes sur TikTok se sont demandées quelle était la version féminine de l'Empire romain. Et leurs réponses sont vraiment ce qui se fait de mieux en termes de pop culture. Donc, il y a la princesse Diana, le procès des sorcières de Salem, le lip-sync de Tom Holland sur Umbrella. Je sais pas si vous avez l'image en tête, mais c'est là où on a vu la première fois Zendaya et Tom Holland ensemble. Et en fait, il est habillé en sexy, en mini-jupe en cuir, et il danse sous la pluie et du coup, il se prend pour Rihanna. Donc, c'est vraiment un moment de la pop culture. Et à ce qui paraît, les femmes pensent aussi beaucoup à leurs meilleures amies, mais pour des trucs un peu plus tristes, terre à terre et proches du coup des réalités des femmes. Quand les hommes pensent à la guerre et à la puissance, les femmes pensent souvent à leur mort et à leur enlèvement. Donc voilà, en fait, l'Empire romain des femmes, c'est soit des trucs très cool, soit des trucs très tristes et très du coup quotidiens, parce que oui, les hommes font peur. D'ailleurs, ça me fait penser à une interaction sur Twitter où un mec avait dit « Ok, d'accord, vous n'aimez pas les hommes, mais si on n'était pas là, qui vous protégerait ?» Et les femmes ont toutes répondu « Mais nous protéger de qui du coup ? Parce que vous serez plus là, oui, donc en soi, on n'a pas besoin de protection. » Donc voilà.
Ouais. Et toi, ce serait quoi ton Roman Empire ?
Moi, franchement, ce serait le film des Spice Girls. J'aime trop. Et tout le temps, je ressors des petites citations comme quand on pose une question super obvious à Jerry et qu'elle dit « Est-ce que le pape est catholique ?» Et après, tout le monde est scandalisé. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ton Roman Empire ?
Franchement, j'en sais rien, je dirais. C'est nul, hein. Mais je suis vraiment une personne à chat. Genre, je pense que c'est les chats. J'y pense quand même assez souvent.
Tout d'un coup, tu marches et tu dis, oh bon,
c'est quand même
un
peu plus mignon que...
Arrondissement 20.
Ah, qu'est-ce que t'as dit?
Tout d'un coup, tu marches et tu te dis, ah oui, ce chat que j'ai vu à côté du...
Mais oui, littéralement. Mais c'est quand même un peu plus mignon que l'Empire romain, quoi.
Ok, d'accord.
Ok. Mon Roman Empire, franchement, c'est mon fils, hein, faut arrêter, ouais. Il ne quitte jamais mon esprit, donc voilà, en bien ou en mal.
Et ouais, donc, enfin, il y a toute cette, cette adoration, en fait, de ce passé, et aussi bah, de ces figures, en fait, masculines du passé. Et même encore aujourd'hui, en fait, il y a toujours cette adoration pour des hommes blancs qui sont très controversés, problématiques. Il y a la glorification de Napoléon, qui, on peut le dire, est pas si différente, au final, de celle des serial killers, puisque lui-même, c'est un gros meurtrier, comme par exemple Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, qui ont fait l'objet de plein de séries, de films, de livres.
Alors que la famille des victimes ont demandé d'arrêter quand même.
Ouais. Donc il y a toujours cette glorification de personnages vraiment pas glorieux, quoi. Et en fait, je sais pas si tu sais, mais il y a un biopic en préparation sur Elon Musk.
Non, c'est horrible, je vais jamais le voir. Même s'il me restait 30 cents sur Terre et qu'on m'offrait 1 million pour le voir, non, là j'irai le voir. Mais franchement, il faudrait vraiment me porter pour aller au cinéma.
Ouais, c'est un film qui va être réalisé par Darren Aronofsky, qui est connu pour ses longs métrages, notamment Black Swan et Requiem for a Dream. Et donc, du coup, Elon Musk, milliardaire sexiste qui a récemment déclaré que les comptes des utilisateurs sur Twitter qui affichent les termes comme décolonisation ou alors le slogan de la rivière à la mer en soutien à la Palestine ou, je cite, d'autres euphémismes similaires qui impliquent un génocide, seraient suspendus sur Twitter et donc cette personne-là va avoir un biopic. Et puis il y a aussi Johnny Depp qui est accusé d'agression sexuelle et de violence conjugale, qui est toujours égérie de Dior. Enfin, ouais. Je sais pas si t'as d'autres personnes en tête, mais la liste est très longue.
Même Brad Pitt qui a eu il y a eu l'histoire comme quoi il frapperait Angelina Jolie et ses enfants et il est toujours là, il a muté partout parce qu'il met des jupes pendant sur les tapis rouges, tout le monde pense que c'est un mec hyper révolutionnaire, donc ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, on peut vraiment dire que la cancel culture n'existe pas pour les hommes et surtout quand ils sont riches et blancs. Donc comme je vous disais au début de l'épisode, en fait, quand Casey a parlé de son agression pour porter plainte contre Diddy, tout le monde s'est dit pourquoi maintenant, si c'était aussi horrible, pourquoi l'attendre aussi longtemps, parce que déjà, en fait, ça se pose pas comme question, mais on sait comment les hommes protègent les autres hommes violents et comment la société réduit au silence les femmes qui osent parler, que ce soit Amber Heard, dont tout le monde dit qu'elle est folle ou que c'est une menteuse, que ce soit Megan Thee Stallion, que tout le monde n'a pas cru pendant des années jusqu'à ce que son agresseur qui s'appelle Tory Lanez a été incarcéré, ou même Angelina Jolie et Casey, donc voilà. Et je pense que tu peux être d'accord sur le fait que on voit rarement un homme qui a été accusé de viol, d'agression sexuelle payé pour ses crimes. D'ailleurs, j'ai vu un tweet d'une tweetose qui s'appelle Earthstan. En fait, elle a fait un thread sur une quinzaine d'hommes riches et célèbres qui vivent leur meilleure vie alors qu'ils ont été accusés d'agression sexuelle et dont certains ont reconnu qu'ils avaient bien agressé sexuellement la femme en question, dont Cristiano Ronaldo, le footballeur. Il y avait Shane Penn, il y avait Boy George, il y avait Chuck Berry, il y avait Jack Nicholson, c'est tous des gens qui sont encore adulés aujourd'hui, qu'on aime, qu'on respecte en plus dans les milieux où ils évoluent, alors qu'ils ont été reconnus coupables d'agressions sexuelles, de viols et voire plus.
Ouais, donc cancel culture à deux vitesses.
Ouais.
Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il faut peut-être donner plus de visibilité à des figures un peu plus cool quand même.
Ouais, c'est ça, et même des femmes. Pourquoi attendre que les gens soient morts pour faire des films sur eux ? Je sais pas, il y a des gens hyper cool qui sont vivants et qui ont besoin de force en fait. Et je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Napoléon et qu'on s'en fiche de savoir qu'il était anxieux et qu'il faisait les proutes avant ses discours, tu vois, on s'en fiche, je sais pas. Et moi je pense que franchement il y a tellement de figures tellement chouettes, que ce soit des natifs américains, que ce soit des natifs africains qui ont vraiment changé l'histoire du continent dont on pourrait parler. Et il y en a marre en fait des trucs sur les hommes occidentaux dont on s'en fout, en plus ils étaient moches de base en fait. Voilà.
Ils n'étaient pas à ton goût, du coup tu vas pas regarder.
Non, je vais regarder. Le mot de la fin pour moi, ce serait franchement, ce n'est pas parce que c'est en 4K que c'est bien. Voilà.
Vraiment, tu nous sors que des punchlines.
Ouais,
aussi.
Je jure. Je vais arrêter le journalisme, mais je vais me lancer dans le rap. Parce que le rap, les rappeurs aussi sont problématiques, donc voilà.